Quelle est une bonne nouvelle que vous avez entendue? Pensez à un moment où vous avez entendu vraiment une bonne nouvelle. Elle a dit oui. Ou le bébé va bien. Ou le cancer est parti. Mon père a eu le cancer en 2008. Je me souviens quand il nous a annoncé ça. Mais je me souviens aussi quand il a dit rémission totale. Quelques années plus tard, après le traitement. Oh, ça nous a fait du bien d'entendre de bonnes nouvelles comme ça. On a envie, je pense, en tant qu'être humain, de bonnes nouvelles. On a soif de ça. Une des amies d'Éléonore, ma femme, lui disait récemment, il y a tant de mauvaises nouvelles. On regarde les infos, il y a plein de mauvaises nouvelles chaque jour. Saoulé par les mauvaises nouvelles. Moi, j'ai envie d'entendre une bonne nouvelle. C'est ce qu'elle a dit. Eh bien, heureusement, il y a une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, qui se trouve au cœur de la Bible. Lorsque nous sommes en train de nous réunir le dimanche matin, nous avons en fait à portée de main la bonne nouvelle qui se trouve dans la Bible. On parle souvent de l'évangile. En fait, l'évangile, c'est basé sur un mot grec qui signifie bonne nouvelle, les deux mots en un mot, évangile. Et donc, quand on parle de l'évangile, on parle toujours de quelque chose qui est bon à savoir, une bonne nouvelle pour nous. La semaine passée, on a commencé notre série en Romains, cette lettre qu'on est en train de parcourir, et le prédicateur a souligné que c'était une bonne nouvelle qui allait transformer notre identité, qui nous sommes. Mais aussi que la bonne nouvelle de l'évangile allait nous donner un but, le but que Dieu a pour nous et pour notre vie. Et une communauté que Dieu a mise en place pour que nous vivions les uns avec les autres, pas toi seul là-bas et moi seul là-bas, mais ensemble, une communauté. Ce sont des effets de l'évangile. Vous remarquez que lorsque l'écrivain a commencé cette lettre qui expose tout l'évangile, il n'a pas commencé en disant « Alors il y a un paradis et je vais vous dire comment vous pouvez y arriver. » Il a parlé directement des bienfaits de cette bonne nouvelle. Et on va approfondir cela pendant plusieurs semaines. Ici à LifePoint, jusqu'en avril, en fait, on va parcourir les 8 premiers chapitres de la lettre aux Romains. C'est une lettre du 1er siècle qui a été écrite à une église qui était à Rome. Et on va approfondir cela avec comme thème ou comme titre de cette série, Le juste et les injustes. Le juste et les injustes. Le juste, c'est Dieu. On aurait peut-être dû le mettre avec majuscule. Le juste et les injustes. En se posant particulièrement la question, mais comment pourrions-nous être unis avec lui? Comment est-ce que c'est possible qu'un Dieu juste puisse habiter en bonne relation avec nous et que nous puissions être proches de lui? C'est incompatible quelque part. Et en fait, nous allons voir que Dieu, il a fait le nécessaire pour que nous puissions être amis avec lui. Mais tout d'abord, nous allons voir que Dieu est différent de nous. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur ça, qu'il est juste et que nous avons pris une mauvaise direction dans notre vie. Ce que j'annonce aujourd'hui, en fait, c'est le passé que nous avons tous en commun. Nous sommes tous les mêmes au départ. Tous les mêmes. Pour certains, en fait, c'est pas votre passé, c'est aussi votre présent. Vous êtes en train de vivre dans cette mauvaise relation, cette mauvaise posture devant Dieu. Pour d'autres parmi nous, c'est notre passé, c'est pas notre présent, mais c'est quand même notre passé à tous. On va le lire à travers la lettre aux Romains, donc je vous invite à avoir la Bible sous les yeux. On a quelques Bibles qui restent, mais Romains chapitre 1, et on va lire à partir du verset 16. Romains 1, verset 16. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu et sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. On va voir deux grandes vérités, comme je l'ai annoncé. La première, c'est l'Évangile montre la justice de Dieu. L'Évangile montre la justice de Dieu. Paul écrit ses lettres en fait pour montrer qu'il croit les mêmes choses que les chrétiens qui sont à Rome. Juste avant, il a dit au verset 14, « Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Il n'est pas à Rome quand il écrit, il écrit à une église qui est là, et il se doit à tous, et par là il veut dire les philosophes grecs, les gens romains de la haute société, tout comme les gens qui n'avaient peut-être pas une éducation, qui n'étaient pas très philosophiques, mais il voulait annoncer cette bonne nouvelle à tous ceux qui étaient à Rome. Et donc maintenant, il va commencer à évoquer vraiment ce qu'est l'Évangile. Et il dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. On dirait probablement aujourd'hui, dans un langage courant, je suis fier de l'Évangile. Je ne suis pas gêné par l'Évangile que je crois. Je suis fier de l'Évangile. Pourquoi ? Parce que le message unique qui vient de Dieu peut faire quelque chose d'unique. Et dans ces premiers versets 16 et 17, il évoque trois choses par rapport à l'Évangile. L'Évangile est puissant pour sauver les gens, premièrement. Nous avons besoin d'être sauvés et il le fait. Alors s'il n'avait pas l'impression d'un besoin d'être sauvé, il faut écouter jusqu'au bout parce qu'il est possible qu'on se trompe ou que la façon dont Dieu nous voit est différente de la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Un exemple, ça vous est arrivé, ça m'est arrivé il y a quelques mois d'aller chez le médecin pour un problème qui était visible et pendant l'examen, d'être diagnostiqué pour un autre problème qui était invisible. Alors ça va, je gère, je vais bien, je vais être traité. Mais c'est intéressant de voir ça, parce que je pensais que j'avais un problème, le médecin m'a dit non, en fait tu as un autre problème. Et c'est pareil un petit peu avec aujourd'hui, on n'a parfois pas conscience de problèmes qui peut-être sont invisibles pour nous, et pourtant qui sont là, on a besoin de quelqu'un qui puisse faire un diagnostic correct. La bonne nouvelle est puissante pour nous sauver. Ensuite, la bonne nouvelle, elle est universelle. Elle concerne le juif pour le non-juif. Verset 16, j'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Et par là, en fait, il est en train de dire quelque chose qui était assez surprenant à l'époque, c'est que le christianisme n'est pas que pour les juifs. C'est intéressant parce qu'à l'église, à Rome, il y avait des juifs et des non-juifs qui se côtoyaient. Et probablement, ils avaient entre eux certaines discussions. Les juifs disaient, ben, en fait, nous, on est du peuple choisi par Dieu. Et le Messie, Dieu l'a envoyé envers nous. Et vous, vous n'êtes pas vraiment dans notre peuple. Et les chrétiens non-juifs disaient, oui, mais vous avez rejeté Jésus, le Messie, et nous, on y croit, et donc c'est pour nous. Alors, quel est l'avantage d'être juif ou pas? Ils avaient ce genre de discussion entre eux, et parfois, la lettre va parler de cela. Mais on pourrait penser que le christianisme, finalement, c'est que pour les juifs. Jésus était juif, il était né d'une maman juive, il a parcouru les terres d'Israël, il a enseigné dans des synagogues, on l'appelait rabbin, il avait des disciples qui étaient juifs. D'ailleurs, ces 12 disciples qu'il a choisis sont un peu l'équivalent aux 12 fils de Jacob, qui eux étaient les pères de tribus qui sont devenus le peuple de Dieu. Jésus a choisi 12 délibérément pour être 12 hommes qui n'allait pas prendre des femmes pour avoir des enfants chrétiens, mais qui allait parcourir le monde et annoncer la bonne nouvelle de Jésus pour que d'autres personnes croiraient la bonne nouvelle. Mais Jésus a dit, c'est pour les nations. Ce n'est pas que entre juifs. Il a dit, commencez à Jérusalem, et puis la Judée, la région autour, et puis la Samarie vers le nord, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit, même faites de toutes les nations des disciples. Et donc c'est pour le juif et pour le non-juif. Sinon, ça resterait une petite minorité religieuse parmi les juifs. Aujourd'hui, bien sûr, nous croyons que c'est normal d'être international. Regardons autour de nous, on sait bien qu'il y a différentes nationalités qui sont représentées dans notre Église. C'est normal. Peut-être que c'est plus difficile pour nous de croire que c'est pour les Juifs aussi, et pas seulement pour des non-Juifs. Mais à l'époque, c'était surprenant que c'était pour des non-Juifs. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. La bonne nouvelle est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ce n'est pas une question d'arrière-plan. C'est pas comme si le message convient bien des Américains, mais c'est pas pour des Européens. Quel que soit notre arrière-plan, quelle que soit notre couleur de peau ou notre nationalité, ce message s'adresse à nous aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle universelle pour le juif et le non-juif. Mais troisièmement, c'est aussi juste. Dieu révèle sa justice. Verset 17. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? Ben, Dieu est juste dans ses réactions et dans ses relations. Juste dans ses réactions, c'est-à-dire quand il voit le mal, il punit le mal, il ne condamne pas l'innocent comme il condamne le méchant, il peut faire la part des choses, il agit de manière juste dans ses réactions. Mais aussi il est juste dans ses relations, c'est-à-dire il entretient des relations honnêtes, vraies, justes. Il tient ses promesses. La façon de se comporter de Dieu est juste. Et Dieu est capable de nous donner une relation juste avec lui. C'est intriguant. Ça, c'est encore pour plus loin. On va attendre dans quelques semaines comment Dieu a pourvu ce moyen spécial pour que nous soyons justes devant lui. Mais il faut d'abord comprendre d'autres choses. Ici, nous comprenons que l'Évangile a la puissance de nous sauver. Ce n'est pas seulement un message, c'est le message par lequel Dieu sauve. Et que nous devons croire à cet Évangile. Alors nous sommes une église évangélique. Peut-être que vous vous posez la question, mais c'est quoi en fait évangélique? Est-ce que c'est un style? Est-ce que c'est une activité, en fait, de l'évangélisation? Vous êtes des évangélistes? Peut-être que vous associez ça à une nationalité, et à eux sont des évangéliques là-bas. Mais non, en fait, simplement c'est une conviction que l'évangile est le message qui sauve. Et si nous sommes chrétiens depuis plus longtemps, nous devons aussi nous rappeler cette vérité fondamentale, que ce n'est pas notre programme, ce n'est pas notre musique, ce n'est pas notre façon de vivre qui va avoir un impact, c'est le message de l'évangile que nous avons à transmettre. C'est en le transmettant aux gens qu'il va y avoir un impact dans leur vie. Même notre amitié ne pourra pas changer l'état, le statut de quelqu'un devant Dieu. Ce n'est pas en étant ami avec nous qu'il y aura une différence. Il va changer s'il entend l'évangile qui fait la différence. Et même l'entendre, la bonne nouvelle n'est pas assez. Il faut qu'il croie. C'est une bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit. Il faut croire. Donc Dieu révèle sa justice. Regarde à nouveau verset 17. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu. Mais dans la deuxième moitié de notre lecture, qui est plus longue ici, il révèle autre chose. Verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel. Donc il révèle aussi sa colère. Pourquoi est-ce que Dieu est en colère? Eh bien, c'est le deuxième point. L'évangile montre l'injustice des hommes, notre injustice en tant qu'être humain. Cette description peut nous surprendre. Je ne sais pas si vous avez tiqué quand je le disais tout à l'heure. Toute l'impiété et l'injustice des hommes. Il était question d'être inexcusable, d'être impur. Et peut-être que vous étiez en train de vous dire, mais de quoi il parle? Qui est-il pour oser dire des choses par rapport à moi? Je pense que la plupart des gens, si on faisait un sondage, ne diraient pas « Je suis quelqu'un qui vit dans l'impiété et dans l'injustice. » C'est pas comme ça qu'on se décrirait nous-mêmes. Demandez à votre voisin belge, là où vous habitez. Et il va vous dire « Mais j'ai quand même une bonne envie de travailler. Peut-être que j'ai pas trouvé un boulot pour le moment, mais j'ai quand même envie de travailler. J'ai de la solidarité envers les démunis, envers les faibles dans la société. J'ai un souci pour les affaires internationales. Je ne peux pas faire grand-chose pour changer le monde, mais je m'intéresse, je m'informe un petit peu sur les pays où les gens sont exploités, les régimes totalitaires. Je suis inquiet par rapport à ça. Je ne pense pas qu'à moi-même. Je ne suis pas quelqu'un d'égoïste. » Ils vont peut-être même vous sortir cette phrase. Je n'ai pas besoin d'être religieux pour être une bonne personne. Vous avez entendu ça? Probablement beaucoup de gens pensent comme ça. Je n'ai pas besoin d'être religieux pour être une bonne personne. Comment est-ce qu'on doit réagir à ça? Est-ce qu'on doit dire non, il faut être religieux pour être une bonne personne? Ben, je ne crois pas que c'est ça la réponse. Ou, ah oui, tu es très bien, mais il manque juste un petit degré de perfectionnement que tu pourrais avoir juste au-dessus de toutes tes bonnes œuvres, juste quelque chose de plus. Ben, non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit non plus. Ce passage, en fait, est assez renversant parce que il déclare le contraire de ce qu'on pense. Le contraire, je viens de vous dire, ce que les gens pensent, c'est le contraire qui est dit dans ce passage. Et ça ne va pas être facile à entendre, ça ne va pas être facile à dire non plus, mais je veux que vous évaluiez pour vous-même, est-ce que ce que je suis en train de vous dire, là, ça vient de la Bible, est-ce que c'est fidèle à la Bible? Si c'est pas fidèle à la Bible, vous avez le droit de ne pas l'écouter. Mais si c'est fidèle à la Bible, si ce que je suis en train de dire c'est de la Bible, alors votre problème c'est avec la Bible, c'est pas avec moi. On va juste retracer un petit peu les étapes, parce qu'en fait ça, il annonce ça par étapes. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse dire, qu'il puisse diagnostiquer ce problème dont on ne se doute pas que nous sommes injustes? Ben, d'abord, il dit Dieu s'est révélé. Allons par étapes, verset 19. Il dit, ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux. Et quand il dit eux, il veut dire les hommes, l'humanité. Puisque Dieu le leur a fait connaître. Il y a des choses qui sont évidentes, manifestes, visibles de Dieu. C'est quoi? Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'on peut voir à travers ce verset? Ce n'est pas tout ce qu'on peut savoir sur Dieu, bien sûr, mais c'est un minimum. Il est parfait. Il est puissant. Il est divin. On a entendu à travers le psaume que Matt a lu tout à l'heure, le psaume 19, que le ciel raconte la gloire de Dieu. Et que partout où le soleil est là, on voit l'œuvre de ses mains, on peut savoir, même si on ne comprend pas le langage, on peut savoir que Dieu est là. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici aussi. On peut sentir qu'il y a un créateur, on peut voir l'effet de sa création, sa main créatrice, si je peux dire ça comme ça. Un Dieu puissant, un Dieu parfait. Dieu au-dessus de la création. À travers le monde créé, on peut voir le résultat de son œuvre. Imaginez que vous promenez un jour à la côte belge, c'est un soir d'été, et là, il y a un grand, vous découvrez un grand château de sable qui fait 5 mètres de large, vraiment grand, avec des tours, avec des chemins, avec des portes, tout ça en sable, façonné avec du sable, avec de l'eau, des tours. Vous serez épaté. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, mais qui a fait ça? C'est l'œuvre d'un artisan, d'un architecte, quelqu'un qui a de la structure, quelqu'un qui a une idée de la beauté, de quelque chose quelqu'un qui peut ramasser du sable sur un endroit pour créer ça. Vous n'allez pas dire, ah bien voilà, la mer est montée, la mer est descendue, et ça a façonné, peut-être sur quelques années, à ce beau château de sable. Pas penser comme ça. Donc quand nous voyons l'œuvre de la création, nous devons nous dire, tiens, il y a quelqu'un qui a façonné cela, le système biologique que nous connaissons, le cycle de l'eau, la Terre qui tourne, on est à la bonne distance du Soleil. Toutes ces choses-là qui sont mises en place montrent l'œuvre de quelqu'un qui est parfait, divin et puissant. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas voulu savoir. Nous ne voulons rien savoir sur Dieu. Nous avons préféré ignorer Dieu délibérément. Les hommes, verset 21, n'ont pas donné à Dieu la gloire ni la reconnaissance. Ça veut dire que Dieu s'est montré à la création, regardez ce que j'ai fait. Et nous avons fait comme si de rien n'était. Parfois les gens disent, oui, mais vous savez, les gens ne savent pas que Dieu est là. Mais en fait, si, tout le monde sait. Tout le monde qui habite sur la planète Terre peut voir quelque chose de l'œuvre de Dieu, le ciel, la mer, les étoiles, les montagnes, etc. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Le problème, c'est que notre façon de penser ne nous a pas rendus plus sages, mais plutôt éloignés de la vérité. On est quasiment devenu fou, verset 22. Ce qui veut dire que on est devenu irraisonnable. Les conclusions que nous avons tirées sont tellement loin de la vérité que c'est comme si on déraisonnait complètement. J'ai demandé à un étudiant, je donne des cours de théologie, des étudiants qui se forment pour le ministère pastoral. J'ai demandé à des étudiants de réfléchir à comment illustrer cela, cette vérité ici. Et voici ce qu'un étudiant a trouvé. Je trouvais ça pas mal. Il dit, c'est comme une femme qui, sortant de chez elle le matin, trouve une rose sur le seuil de sa porte. Une rose fraîchement coupée qui est là. Et elle prend la rose et sent l'arôme, le parfum de la rose. Elle aime la couleur de la rose. Elle met dans son vase. Formidable. Le lendemain, ouvre la porte, nouvelle rose. Le lendemain, encore une rose. Et elle finit par avoir tout un bouquet comme ça qui est là, avec ces belles roses qu'elle apprécie. Sans jamais pourtant se poser la question, qui est en train de me poser ces roses? Qui les achète? Qui les pourvoit? Qui m'aime au point de mettre ça par terre devant ma porte? Qui s'intéresse à moi comme ça? Jamais penser à trouver qui c'est, jamais penser qu'on pourrait dire merci à quelqu'un, il y a un admirateur là. Et c'est comme ça que nous sommes en train de vivre dans le monde que Dieu a créé avec toutes les bonnes choses que Dieu nous donne. On est content de recevoir les bonnes choses, la nourriture, l'amour, les relations, etc. Mais on ne s'est pas arrêté pour réfléchir. On n'a pas voulu se poser la question d'où ou de qui est-ce que ça vient. Alors ça ne veut pas dire que les gens ont arrêté de réfléchir. Les gens réfléchissent. Alors ils parlent de sagesse humaine, ils parlent d'intelligence. Mais le problème, c'est que l'intelligence est plongée dans les ténèbres. C'est-à-dire, spirituellement parlant, on est loin de la vérité que Dieu veut nous dire. Et donc, si vous mettez tous les philosophes ensemble dans une pièce, même s'ils sont savants, experts, des gens qui ont fait des recherches, des gens qui ont écrit des livres, des gens qui donnent des cours, et vous leur dites, voilà. Dites-nous le sens de la vie. Vous allez avoir plein de réponses différentes, mais vous n'allez pas trouver la vérité. On est en face de l'ULB, évidemment, l'Université libre de Bruxelles, université avec une grande réputation. Et j'étais frappé l'autre jour en voyant leur slogan publicitaire. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais si vous le voyez juste en face de notre bâtiment, le grand slogan publicitaire, l'ULB. Ici, on doute. On débat, on remet en question, on nuance. Alors, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a quand même des choses qui sont comme des dogmes pour l'université libre. Voilà. Mais je laisse ça de côté. C'est ce qu'ils disent. On doute, on débat, on remet en question, on nuance. Et je me suis dit, ce serait amusant si nous, de l'autre côté, le LifePoint, on mettait aussi notre affiche en disant, ici on croit. Vous vous doutez, nous, ici on croit. On annonce. On répond aux questions. On clarifie. Parce que c'est ce que nous pouvons faire. Pas parce que nous sommes plus intelligents ou parce que nous avons beaucoup réfléchi, mais parce que Dieu a parlé, voyez-vous. Et quand Dieu parle, c'est quelqu'un en dehors de nous qui est capable de nous dire la vérité. Si tout ce que nous avons, c'est nos opinions humaines, ben mon opinion ne vaut pas plus que la vôtre. Il n'y a pas de vérité ultime. J'ai mon idée, tu as ton idée, elle a son idée. Qui a raison? On ne sait pas. Mais je ne veux pas suivre simplement un professeur ou un gourou ou un pasteur ou un homme. Je veux que quelqu'un d'autre qui sait tout peut me révéler, me parler de la vérité. Et il a parlé. Le problème, c'est que je n'aime pas sa vérité. Je préfère le mensonge. Et donc il dit, ils ont remplacé, verset 25, ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Et une autre chose se passe, c'est que nous sommes tellement égarés. Non seulement on s'est trompé, mais on a tort. On a fait un échange injuste. Regardez le verset 23. Ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors nous n'avons pas des images dans notre jardin, probablement devant lesquelles nous prions. Mais nous avons quelque chose de similaire. Vous savez ce qui était taillé dans la pierre auparavant et que les gens reconnaissaient comme Dieu? Maintenant, ce n'est plus dans la pierre, mais c'est dans nos cœurs. C'est-à-dire que nous prenons quelque chose ou quelque chose de la nature et nous disons, ça, c'est vraiment important. Dieu ressemble à ceci ou ceci a les mêmes droits que Dieu. On élève quelque chose de la création. Ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les anciennes croyances, elles nous semblent très primitives. On dit, oh là là, ils étaient vraiment sots, les gens avant, adoraient une sculpture d'une vache. Mais il y a des hindous qui vénèrent des vaches sacrées, littéralement pour eux. Il y a des choses aujourd'hui dans le monde occidental où les gens sont véganes parce qu'ils disent, on ne veut pas tuer des animaux. Alors on a vénéré quelque part les animaux comme s'ils avaient autant d'importance et de valeur que nous. Vous voyez comme on a commencé à faire ce qu'il est en train de dire, c'est verset 25, ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Adorer et servir, ce sont deux mots qui touchent à notre adoration. Ce sont des mots religieux. Adorer et servir. Mais quoi? Une créature. Par exemple, quand tu adores ta femme, ou quand le club de sport c'est le plus important pour toi, ou la planète, on a dit ça c'est ça, ça a de la valeur. On va servir cela. On va adorer ça. Et c'est aux dépens du Seigneur. On a remplacé le vrai Dieu avec un Dieu qui nous arrange, mais sans la puissance pour nous sauver, ni même pour nous bénir. C'est pas les vaches qui vont nous sauver. C'est Dieu seulement qui peut nous sauver. Alors, ayant vu cela, est-ce que tu comprends, est-ce que tu arrives à comprendre maintenant pourquoi Dieu est en colère? Dieu n'est pas en colère parce qu'il est quelqu'un de facilement irrité, qui s'énerve, qui n'aime pas les gens. C'est pas ça. Mais c'est qu'il nous a créés. Il a voulu nous donner la vie et tout le cadre dans lequel nous vivons. Et nous avons vécu comme s'il n'existait pas. Nous avons choisi de ne rien savoir. Dieu, qui est le propriétaire de tout, on a voulu prendre, mais jamais le remercier, jamais le glorifier, jamais nous poser la question de qui est-ce que ça vient? Et comment est-ce que je peux le servir? Et comment est-ce que je peux l'honorer? Comment est-ce que je peux vivre pour lui? Nous sommes injustes. Nous avons voulu autre chose que Dieu. Et donc ma question pour terminer est celle-ci. Qui adorez-vous? Qui adorez-vous? Moi, c'est une question plus personnelle que ça. Qui adores-tu? On peut répondre un peu facilement, un peu rapidement, ouais, ben nous adorons Jésus-Christ, nous adorons Dieu notre Sauveur. Nous sommes dans une église. Oui, forcément, nous sommes là pour adorer Jésus. Mais est-ce que c'est vraiment le cas que tu adores Jésus? Qu'est-ce que tu aimes? Qui est-ce que tu sers? Je vais vous donner quelques exemples parce que je pense que ça peut nous éclairer. Quand quelqu'un adore le football, toute sa vie, toute sa semaine tourne autour de ça. Il se fixe des rendez-vous. Il y a match mercredi, il y a match samedi. Il parle de son équipe autour de lui. Il pense à ça pendant qu'il est dans le tram en train d'aller au boulot. Ses émotions, ce qu'il va lire, ses émotions vont être affectées par les résultats de son club sportif. Tout ça tourne autour de son adoration. Quand quelqu'un adore l'argent, Ah, il se réjouit de voir son compte, ses investissements. Peut-être qu'il s'inquiète pour ce qu'il va perdre. Ses émotions sont liées à son argent. Il pense beaucoup à ses investissements. La nuit, il réfléchit. Comment est-ce qu'il peut gagner plus d'argent, épargner plus pour atteindre son but de richesse, le niveau de vie qu'il veut atteindre? Quand quelqu'un adore quelque chose, il est obsédé par cette chose. Alors c'est facile à dire, bon, j'ai pas ce problème-là. Football, c'est pas trop mon truc. L'argent, vous savez, voilà, j'ai pas cette tentation. Peut-être que c'est pas ces choses-là pour vous, mais probablement il y a quelque chose pour toi qui pourrait gagner ton attention, gagner tes émotions, dominer tes émotions et même détourner ton attention du Seigneur Jésus. Ou pour le dire autrement, si nous pouvions entendre tes émotions, tes pensées sur une semaine, est-ce qu'on verrait qu'il y a une vraie préoccupation avec le Seigneur Jésus? Que tu l'adores, que tu le sers, que tu es en train de réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour Jésus? Oh, Jésus, il a fait ça pour moi. Ou est-ce que c'est loin? C'est loin. Le constat est là, nous sommes enclins à adorer, à servir autre chose que Dieu notre Créateur. Et nous avons donc besoin de retrouver la juste relation avec Dieu par l'Évangile. Ça se fait bien sûr par le pardon. Première étape, c'est de dire, pardon Seigneur, je me suis complètement trompé. Pardon, je veux revenir à toi, je veux être ami avec toi. Mais aussi, on va devoir comprendre le merveilleux déroulement de l'Évangile. Comment ce Dieu créateur, si puissant, et si saint, et si juste, a fait en sorte que des gens injustes puissent être pardonnés, réhabilités, acceptés à travers Jésus-Christ. Ça va nous prendre quelques semaines. Mais commençons déjà par apprécier le Dieu qui est juste. Prions. Notre Dieu, nous voulons te remercier parce que cette parole est une parole vraie. Ce n'est pas une parole facile, mais c'est une parole vraie qui nous concerne. Et nous sommes heureux de voir que tu es un Dieu juste. Souvent, c'est ce que nous demandons, que Dieu soit juste. Mais en même temps, nous constatons aujourd'hui avec effroi notre injustice. Permets que nous puissions être honnêtes devant toi là où autre chose est devenue plus importante que toi dans notre vie. Aide-nous à marcher avec toi, avec un cœur sincère. Au nom de Jésus. Amen.